Bienvenue au cœur de la famille, le podcast qui parle de parentalité, d'enfants, de parents, de familles recomposées, de bébés, de postpartum, d'adolescents, enfin, la vie quoi. Je m'appelle Delphine, je suis Kramzor à Amsterdam. Si tu veux en savoir plus sur mon métier, tu peux réécouter l'épisode 1 de la saison 1. Alors vous êtes prêts? Suivez-moi, je vous emmène au cœur de la famille.
Bienvenue à cœur de la famille.
Bienvenue au 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 cœur de la famille.
Bonjour et bienvenue au cœur de la famille. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'être accompagnée d'Amélie. Et Amélie est venue jusqu'à chez moi, donc nous sommes dans mon bureau. Et Amélie est nutritionniste, diététicienne. On se connaît bien, elle habite à Amsterdam également, mais elle parle français. Donc, on va pouvoir parler en français. Amélie, salut, bonjour.
Bonjour Delphine.
Écoute, merci d'être là.
Oui, merci de m'avoir invitée. Je suis super contente d'être là.
Ouais.
Et de parler de ce qui m'anime le plus, en fait, hein, l'alimentation pré- et post-natale. Donc, ouais. Donc, voilà.
On va parler d'alimentation en postpartum. On va parler également de ta participation dans le livre, puisque toutes les recettes qui se trouvent dans Un passepartum en douceur viennent de toi. C'est également toi qui m'as appris à faire le overnight oat que je fais aux mamans.
T'es la meilleure ambassadrice du overnight oat. Je crois que tu l'as déjà fait plus souvent que moi, en fait.
C'est vrai.
Ouais, oui, clairement.
Écoute, franchement, c'est une révélation. donc voilà. Et puis, alors, raconte-nous, tu es qui? Tu fais quoi? Pourquoi est-ce que tu vis aux Pays-Bas? Tout ça.
Alors, déjà, je suis belge. Je parle français, mais en fait, je suis flamande au départ. Je suis maman de 3 enfants qui ont 13, 11 et 8 ans. Ouais. Et j'habite un peu en dehors d'Amsterdam, à la campagne, avec Jonathan, que tu connais, et que moi, je connais depuis mes 16 ans. Et mes 3 enfants, forcément. Et voilà, j'ai fait un bout de carrière dans des agences de communication. Donc, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et je me suis reconvertie quand j'étais enceinte de mon 3e.
D'accord.
Pour suivre ma passion pour la nutrition. Et depuis, je travaille comme nutritionniste pour maman et future maman.
D'accord. Et donc, effectivement, toi, c'est aussi la maternité qui t'a fait réfléchir à un changement de carrière.
Oui.
C'est toujours intéressant, je trouve, ce que ça fait sur nous.
Oui, c'est clairement. J'aimais bien mon travail, mais c'est vrai que ça ne m'animait pas comme ce que je fais maintenant. Donc, je sentais qu'il y avait quand même un petit manque de passion. Et c'est vrai qu'en plus, j'étais déjà maman de 2 petites filles et mon mari travaillait beaucoup. Et en fait, je me rendais compte que je rentrais tard, je ne voyais pas beaucoup mes filles et ça ne me convenait plus. Surtout aussi parce que la passion n'y était pas assez. Donc voilà, oui, c'est vrai que ce sont les enfants qui m'ont poussée en quelque sorte dans une meilleure direction en ce qui me concerne, en tout cas.
Et donc, tu travailles aux Pays-Bas. Donc, comme moi, tu es trilingue.
Oui.
Ce qui fait que j'aime bien quand on discute ensemble parce qu'on peut parler notre langue, en fait.
J'adore ça. Oui, c'est vrai qu'en plus...
Il n'y a pas beaucoup de gens avec qui je peux faire ça.
Non. Et en tant que belge, c'est vrai que j'ai l'habitude de parler à des... Enfin, quand je parle à mes copines, elles sont toutes bilingues. Donc, j'ai l'habitude d'utiliser les deux mots, ce qui est une très mauvaise habitude. Mais donc, ici, je suis pas mal entourée où je travaille beaucoup avec des Françaises, pur sang. Et donc, parfois, je cherche un peu mes mots parce que j'ai tellement l'habitude de, par facilité utiliser un petit mot en flamand. Donc, avec toi, c'est très bien. Parce que je peux le faire,
en effet. Bon, alors, nous, on va essayer de ne pas mettre
le mot
néerlandais. Si on le fait, on expliquera. Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'utiliser les mots comme kramzor, kramweek, krampakket. Donc, les gens qui me suivent ont un petit peu l'habitude. Mais sinon, on reprécise à chaque fois. J'ai précisé qu'on se connaissait depuis longtemps. Ça fait combien d'années qu'on se connaît maintenant? Ça fait...
5 ans, je crois.
Je pense quelque chose comme
Moi, ça fait 6 ans que je suis ici. Et en fait, en arrivant ici, je suis belge, mais j'ai vécu 6 ans en Suisse. Et en Suisse francophone. Et donc là, j'avais pas mal d'amis francophones aussi. forcément. Et quand on est venu aux Pays-Bas, j'avais en fait envie de garder un petit côté francophone. Et donc, très vite, j'ai lancé un groupe.
Ah oui.
Donc, j'ai fait appel à des francophones qui habitaient dans le sud d'Amsterdam, parce que c'est là où j'habite, pour faire des petits dîners de temps en temps, juste comme ça, entre mamans. Oui. Et on faisait partie. Oui. Et donc, je crois qu'à un des premiers dîners, t'étais là. Hein.
Ouais. Je me souviens. C'était très sympa. Et c'est toujours sympa. Alors, et là, je ne peux pas venir à tous les dîners, mais... Et puis en plus, de toute façon, t'es un peu victime de ton succès parce qu'il n'y a pas assez de place.
Oui, c'est vrai.
Il faut s'inscrire vite.
Oui, on est nombreux.
C'est très sympa.
Ouais.
Donc, si vous êtes à Amsterdam, si vous nous écoutez, si vous avez envie de faire partie de ce groupe, il suffit juste d'envoyer un message à Amélie. De toute façon, je mettrai ton site dans la description et on pourra te retrouver facilement aussi sur Instagram. Et puis aussi, quand on est à Amsterdam et qu'on a besoin d'une diététicienne, évidemment, je recommande Amélie. Ça, c'est une évidence.
Merci.
Alors, donc oui, c'est vrai qu'on avait échangé, on avait fait le overnight ensemble et souvent, je te demande ton avis parce que pour moi, t'es une source de savoir et que je préfère toujours demander aux personnes qui savent plutôt que d'inventer. Donc, c'est comme ça que tu m'avais donné cette recette-là. Et quand j'ai écrit avec Marion Joseph un postpartum en douceur, on avait l'envie d'ajouter des recettes et évidemment, tout de suite, j'ai pensé à toi et j'étais tellement contente que tu acceptes de participer avec nos livres. Donc, juste pour les personnes qui ont le livre et celles qui ne l'ont pas, je vous invite à vous le procurer, tout simplement. Il y a dans le livre, je suis en train de chercher la page, les pages, parce qu'il y en a plusieurs.
Oui, je crois que tu l'as.
Oui, on est sur... les pages 108 du livre et après on a les recettes à partir de la page 111. Il y a des recettes que nous a offertes Amélie, donc vous pouvez retrouver qui sont des recettes faciles pour justement préparer en postpartum. Alors justement, c'est l'objet de notre épisode du jour, donc c'est se nourrir en postpartum. Amélie, Dis-moi. Comment on commence? Le béaba de
oui.
Je suis enceinte, je suis allée. À quoi? À partir de quand on commence à s'intéresser à ça?
Eh bien, justement, c'est un peu le fil rouge de ton livre aussi. On le prépare.
Ouais.
Idéalement, on prépare bien son postpartum et aussi au niveau de son alimentation. Et donc, moi, ce que je préfère, donc je travaille avec des mamans et des futures mamans. Ce que je préfère, c'est accompagner une femme dès le début de sa grossesse parce que du coup, on peut vraiment renforcer son corps pour toute la grossesse, pour créer un bébé en pleine santé, mais aussi pour bien préparer ses postpartum. Parce que le bébé, il se sert hein, des nutriments de la maman, donc il taxe pas mal de choses dans le corps de la femme. Donc c'est vrai qu'arrivée en fin de grossesse, souvent les femmes ont des carences. Donc très souvent, quand on soigne pas très bien son alimentation pendant sa grossesse, on arrive déjà affaibli en postpartum.
Ouais.
Et voilà, ça a pas mal de conséquences au niveau physique, pour bien récupérer physiquement, mais aussi au niveau mental.
D'accord.
Donc voilà, juste pour décrire l'importance de bien préparer ce postpartum. Et c'est ce que je fais donc avec mes mamans, c'est que dans le troisième trimestre, on couvre ce sujet-là, parce qu'il ne faut pas commencer à y penser une fois que le bébé est là, parce que comme tu sais très bien, on est déboussolé. Et donc ensemble, on regarde... donc en général, si je les ai accompagnées, elles ont déjà se sont en général bien nourries déjà jusque-là, mais on regarde des choses plus spécifiques. Donc souvent, déjà, je leur conseille de déjà booker un bilan sanguin pour quelques semaines après l'accouchement, parce que sinon, si on doit le faire après, on l'oublie.
Ouais.
Donc c'est bien de prendre ce rendez-vous déjà quelques semaines avant l'accouchement.
Donc en fait, tu veux dire d'aller voir un médecin. Alors aux Pays-Bas, tu sais que c'est un peu compliqué. En France, je pense que c'est plus simple, mais donc de demander un bilan sanguin avec des choses en particulier.
C'est ça, des choses en particulier. Donc moi, je donne alors toujours la liste, mais donc il y a les choses qui sont souvent carencées en fin de grossesse. C'est la vitamine D, le magnésium, le B12, ou la B12. Donc ça, ce sont différentes choses. Je conseille aussi de vérifier la thyroïde, parce que la thyroïde D'accord. prend un bon coup aussi pendant la grossesse. Et alors aussi, en fonction de est-ce qu'il y a eu beaucoup de perte de sang ou pas, est-ce qu'il y a eu césarienne ou pas, mais donc de regarder aussi où en est la ferritine, ouais, tout à fait. Donc ça aussi, donc pendant cette dernière consultation, avant l'accouchement, on regarde aussi quelles sont les situations différentes. Donc, s'il y a une césarienne, comment bien aider le corps à mieux cicatriser, par exemple. Mmh, ouais. Est-ce que si parfois des femmes doivent prendre des antibiotiques aussi après un accouchement. Donc, déjà parler des probiotiques à prendre du coup.
D'accord.
Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, ça se prépare idéalement D'accord. avant.
Bon, mais partons du principe qu'on est sur une maman qui a pas de carence.
Qui
donc doit préparer son alimentation en postpartum. On commence moi j'aime bien citer le livre de mes amis Marie-Maë Poulain et Céline Chadla, Le Mois d'Or, où elle parle effectivement de manger des plats régénérants, chauds. Mm-hmm. Et d'ailleurs, toi, une fois, tu m'avais tapé sur les doigts en me disant il ne faut pas donner des fruits frais aux mamans mm-hmm. parce que ce n'est pas cuit. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile pour moi de faire des compotés quand je suis en famille, mais je l'ai bien noté.
Ouais. Ouais, idéalement, en effet, des aliments cuits.
Ouais.
Et de préférence chaud, parce que voilà, ils sont plus faciles à digérer, parce que ils n'enlèvent pas la chaleur de la femme, et elle en a besoin pour récupérer. Et surtout quand on regarde ça d'un point de vue de médecine chinoise, alors je suis pas du tout une experte en médecine chinoise, mais voilà, en Chine par exemple, on interdit même à une femme d'ouvrir son frigo en postpartum, pour justement vraiment bien garder cette chaleur. On lui met, même quand il fait 30 degrés dehors, on lui met des grosses chaussettes, on lui met des bonnes couvertures et tout. Mmh. Et donc, en alimentation, c'est pareil. Et donc, d'ailleurs, je me rappelle qu'on avait parlé des fruits froids, mais les overnight oats aussi, je me suis dit, tiens, je vais dire ça à Delphine. Idéalement aussi, tu le sors, ou la maman le sort, ou le papa, le partenaire le sort du frigo quelques heures avant. Pour qu'il ne soit pas vraiment frais, mais qu'il ait pris un peu la température ambiante.
Moi, je leur recommande de le réchauffer un peu.
Encore mieux,
ouais. Bon.
Donc ça c'est une chose. Et alors ce que moi je conseille toujours, et ça vaut pour une femme enceinte, pour une femme en postpartum, et pour n'importe quelle femme et homme aussi, pour moi la base d'une bonne alimentation, déjà j'aime pas trop compliquer les choses non plus, donc le plus simple, c'est d'essayer de manger le plus possible entier et varié. Donc, ça veut dire d'éviter tout ce qui vient dans des emballages avec des longues listes d'ingrédients. Et je sais que certaines personnes alors me disent « Oui, mais c'est compliqué, et j'ai pas le temps de cuisiner, et j'ai personne qui pourra cuisiner pour moi. » Mais en fait, il faut même pas vraiment cuisiner des choses pour manger entier. Donc moi j'ai dit aussi, on peut ouvrir un avocat, le couper en deux, ajouter un peu d'huile d'olive, de sel et poivre, on prend une tranche ou deux de saumon fumé et un peu de salade de blé, et on a un lunch très facile, très rapide, mais avec des choses entières, donc on n'a pas glissé la pizza au four.
Ouais, mais là ça c'est froid.
Là, c'est...
Ah oui, tu parles en général.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Alors pour...
Ouais, c'est sûr, on n'a pas glissé la pizza. Ouais, c'est sûr.
C'est ça. Mais donc ça, c'est une première idée de base, donc de manger plutôt entier, donc non transformé. Deuxième chose qui est très importante... Deuxième chose importante en postpartum, ce sont les protéines. Et déjà, pendant la grossesse, on a besoin de plus de protéines, au plus on avance dans sa grossesse. Mm-hmm. Mais en postpartum aussi, parce que voilà, les protéines, on en a besoin pour, s'il y a des cicatrices, pour les muscles aussi. Donc, il y a certains muscles qui n'ont pas ou été utilisés différemment pendant la grossesse et qui doivent se reformer. Il y a la peau aussi qui doit... se remettre en place, l'utérus qui se recontracte. Mm-hmm. Et donc, pour toutes ces choses, on a besoin de plus de protéines, et encore plus si on allaite.
D'accord.
Voilà, pour la production de lait.
Alors, protéines.
Oui.
Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est.
Oui. Alors, les protéines...
C'est où
on les trouve dans... Donc, il y a des protéines animales et des protéines végétales.
Ouais.
Alors, les protéines animales, c'est tout ce qui vient des animaux. Donc, c'est la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers.
Ouais.
Et alors, dans le groupe des protéines végétales, on a donc ce que les végétariens vont plus facilement manger parce que c'est très dense, très concentré en protéines, ce sont des choses comme le tofu, mm-hmm. le tempeh, ouais. Mais on trouve aussi des protéines dans les légumineuses, donc mm-hmm. les lentilles, les pois chiches, donc le houmous par exemple, dans les noix, dans les graines, donc voilà.
D'accord.
Et donc, c'est pas qu'il faut manger matin, midi, soir des protéines, enfin ou un morceau de viande et du poisson, mais on peut vraiment ajouter aussi, en ajoutant par exemple des graines de chanvre, qui sont ouais. des graines qui sont très riches en protéines. Une cuillère à soupe de graines de chanvre ajoute déjà 5 grammes de protéines.
Donc, d'accord. Donc voilà. Graines de chanvre.
Voilà. D'accord. C'est ce que je conseille toujours aux mamans qui aiment bien. D'ailleurs, tu pourrais le mettre dans les overnight oats.
Des graines. Parce que oui. là, je mets des graines de chia.
Oui. Très bien aussi.
Est-ce que les graines de chia, c'est
C'est excellent aussi.
C'est protéines ou pas ?
Il y a des protéines, mais c'est, alors je crois qu'il y a la moitié plus ou moins par rapport d'accord. aux graines de chanvre. Donc d'accord. pour des mamans qui ont un peu du mal à manger des protéines pendant la journée, voilà, j'ai dit, mais rajouter des graines de chanvre, en plus elles ont un bon goût. Ça, c'est un peu comme les pignons de pain, je trouve.
D'accord.
Et voilà,
et ça on peut se met comme ça, parce que les pignons de pain, c'est plus sympa de les faire griller. Là, on les met comme ça.
Oui, c'est concassé, hein, donc c'est vraiment comme okay. une petite graine. Donc d'accord. ça a la taille des graines de chia plus ou moins. Et on peut les ajouter à des potages, sur une salade, sur des légumes. Okay. Donc, c'est très facile à ajouter comme source de protéines supplémentaires.
Ok, donc ça c'est bien. Alors, tu nous as dit des protéines.
Oui, donc manger entier et varié, les protéines. Et j'ai beaucoup de conseils, mais je ne vais pas...
Il faut que tu nous donnes des espèces de bases, en fait.
C'est ça. Alors, comme base, ce qui est quand même important, quand on est en postpartum, comme tu sais, on ne dort pas beaucoup.
Mm-hmm. Alors, on ne dort pas beaucoup, puis surtout, on dort avec des grosses coupures.
C'est ça. Et ça, au niveau hormonal, et notamment sur la glycémie, donc ça veut dire le sucre qui ouais. circule dans notre sang, c'est une cata.
Ouais.
Pour le dire comme c'est. En fait, sûrement, Delphine, tu as déjà remarqué que quand tu passes une mauvaise nuit, le lendemain, tu as plus envie de sucre. T'as envie de manger plus souvent.
D'accord.
Et t'as plus envie de pain, de pâtes, donc en fait vraiment les glucides.
Donc, de se réconforter quoi.
C'est ça, et ouais. ça c'est parce que notre sucre sanguin est plus élevé, okay. et donc y a, voilà, quand notre glycémie est plus élevée, on a envie de manger plus de sucre. Sucre appelle d'accord. le sucre, et avec sucre, je veux dire bien sûr le sucre en soi, mais c'est aussi le miel, le sirop d'érable, mais aussi tous les glucides transformés, donc le pain blanc, même le pain complet aussi, les pâtes, le riz blanc, tout ça sont des glucides. Et tu rigoles ou je ouais. te vois sourire parce que
moi je pense effectivement au pain au chocolat voilà quoi,
et ce sont des choses qui sont souvent très faciles à manger, donc très souvent
sont très sympas au petit déjeuner,
qui sont très sympas, et voilà, en effet c'est facile, hein, entre deux tétés on peut vite se prendre un bout de baguette ou un croissant ou un biscuit, et surtout quand il y a déjà des enfants plus grands dans la famille, ben souvent il y a des biscuits et des petits princes et des trucs comme ça, et c'est juste c'est ce que naturellement on a envie de prendre à ce moment-là, parce qu'on
alors, qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner si ça c'est pas recommandé, parce que ça c'est même une question que moi je me pose. Alors moi j'ai un petit peu grâce à toi d'ailleurs, j'ai un petit peu modifié mon alimentation, et il se trouve qu'avant je mangeais beaucoup sucré le matin, et que maintenant je commence toujours, la première chose que je mets dans ma bouche est plutôt un crackers avec soit du fromage, soit du jambon, donc je ne commence plus en fait avec du sucré.
Oui.
Mais alors tout le monde n'adore pas ça quoi. Ça
oui.
peut pas arriver tout le monde.
Non, c'est ça. On peut aussi très bien manger sucré le matin sans faire monter cette glycémie. Et en fait, le petit déjeuner va vraiment mettre le ton pour, au niveau de la glycémie, hein, ce que moi j'appelle le yo-yo glycémique. Donc, c'est quand on commence le petit déjeuner déjà avec du sucré, hein, donc pain blanc, chocolat, Nutella par exemple. Cette glycémie va monter, et puis après, elle va redescendre, et puis on aura de nouveau envie de sucre. Comme je disais, le sucre appelle le sucre. Et donc là, on part sur un yo-yo glycémique. Et quand on est déjà fatigué, c'est super important de garder cette glycémie stable. Donc ça, ce serait mon troisième conseil, c'est de garder cette glycémie stable. Alors, une des façons les plus efficaces de le faire, c'est de bien commencer son petit déjeuner, en effet. Mmh. Et alors, les trois éléments importants pour un petit déjeuner qui ne va pas faire monter cette glycémie, ce sont les protéines, les graisses et les fibres. D'accord. Et donc, si, voilà, par exemple, tu demandais pour un petit déjeuner sucré, les overnight oats, voilà. encore mieux si c'est, si on le supporte bien, si on supporte bien le lait de vache, il est plus riche en protéines. Je ne dis pas qu'il faut en prendre,
il y a beaucoup de femmes qui le supportent. Mais si on en prend de temps en temps.
Oui.
Mais bon, effectivement, il y a...
C'est ça, mais si on le supporte bien, c'est une bonne source de protéines. On peut ajouter, je ne sais pas si tu le fais, Delphine, mais on peut ajouter une cuillère de peanut butter, de... Comment on dit ça? Du beurre de cacahuète. C'est ça? Ou de beurre d'amande.
Dans quoi?
Dans le overnight oats.
Ah oui, mais ça, j'en mets.
Tu le fais. Hein. Ouais. Donc là, dans ce beurre de cacahuète ou dans le almond butter, il y a aussi des protéines. On peut ajouter un peu de graines de chanvre. Donc là, on a déjà au niveau des protéines, on a avec le lait, les graines, éventuellement des noix concassées qu'on y ajoute. On a déjà cette base-là, ça c'est couvert. L'avoine est riche en fibres. Donc là, on a le deuxième élément. Et puis, les noix et les graines apportent aussi des bonnes graisses.
Ouais, c'est ça.
Ce que tu pourrais même éventuellement faire, c'est ajouter un peu d'huile de coco à ça aussi. Tu vois, ça, on peut vraiment pimper un peu ces overnight oats.
Parce que l'huile de coco, telle que moi je la connais, elle est solide.
Oui, c'est ça. Donc là, tu l'as fait fondre d'abord. Avant
et après,
de
tu mélanges.
Après, tu mélanges, ouais.
Dans l'overnight.
C'est ça.
Ok.
C'est ça. Ou tu le fais au moment de le servir. Mais donc voilà, c'est juste si ça te plaît. Je dis toujours aussi aux femmes que j'accompagne, ne mangez jamais rien que vous ne trouvez pas bon. Voilà. Non, il ne faut jamais se forcer, simplement sous prétexte que c'est bon pour la santé.
Bon, alors ça, c'est un premier petit déjeuner. Est-ce que tu as une idée d'un autre
Oui, j'en ai plein. Mais donc aussi, si on est plus sur le sucré, le yaourt grec, qui est plus riche en protéines que les autres yaourts.
Ouais.
On le prend entier, on le prend sans sucre ajouté. Et puis, on peut y ajouter des noix, des graines, on peut ajouter un peu de granola. On peut de nouveau ajouter donc aussi la purée d'amandes, la purée de cacahuètes ou le beurre de cacahuètes, les graines de chanvre. Donc là, de nouveau, on va un peu habiller notre bol pour qu'il contienne des bonnes graisses, des fibres et des protéines.
Et on n'a pas le droit de mettre de fruits ?
Si, on a le droit, tout à fait. Donc on peut mettre des fruits si on en a envie, pas de souci. Ouais.
Et est-ce que c'est mieux des fruits secs ou des fruits frais ?
Alors, les deux vont en fait. D'accord. Disons que les fruits secs en postpartum sont vraiment pas mal parce qu'ils contiennent en général beaucoup de fer.
D'accord.
Et qu'ils contiennent beaucoup de fibres et beaucoup de sucre aussi, mais ce sont des sucres on en a besoin, surtout quand on allaite. La femme qui allaite a besoin de plus de glucides encore pour créer ce lait. Okay. Et donc, pour ça, les fruits secs sont bons en postpartum.
De toute façon, les fruits secs et les graines, c'est excellent comme snack. Régulier en fait pendant la journée pendant la crème veille.
Oui, tout à fait. Là, pour les snacks, je viens de faire un nouvel e-book. Il est en anglais, par contre.
Ouais.
Donc, quand on va sur mon site maintenant, il y a un pop-up. Donc, si on clique dessus, on peut télécharger un e-book avec 30 recettes et idées de snacks. Pour les femmes qui sont enceintes et qui allaitent.
Trop bien.
Voilà. Ou qui n'allaitent pas, mais qui sont en postpartum. Et donc, il y a 15 idées salées, 15 sucrées. Donc, voilà.
Ok. Donc, il y a juste besoin d'aller sur ton site. Si tu veux, tu peux nous le redire là et puis on le réécrira. Ton site.
Oui. Alors, c'est goodnest avec deux S et un T, .com. Et voilà. Et donc, sur la page d'accueil, donc mon site est en anglais, mais sur la page d'accueil, donc il y aura le pop-up pour télécharger cet e-book.
Et puis, il y a aussi la possibilité d'avoir le site en français, je le sais, puisque je le connais, ton site, qui est très beau d'ailleurs.
Merci.
Une des photos très belles. D'ailleurs, il y a une des choses que je trouve trop bien avec tes recettes, c'est que un jour, tu m'as dit les recettes ne sont validées que si deux de mes trois enfants ont validé la recette.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Et le mari aussi.
Hein. Ah oui.
Ah ouais, oui, mais bon, lui, il n'est pas très difficile. Donc ça, c'est déjà tout bon. Mais c'est vrai que, je m'étais mis ça comme objectif de mettre une recette seulement si deux des trois enfants, parce que comme tous les parents savent, c'est très difficile d'aligner toute une table sur un repas. C'est très rare quand tout le monde trouve que ce que j'ai préparé est bon, malheureusement. Mais voilà. Deux des trois, alors vous trouverez la recette sur le blog.
D'accord, trop bien, bah, génial. Merci pour tout ça. Donc oui, ton autre idée de petit déjeuner alors. Ah mais non, tu me l'as
dit. Donc là oui, là c'était donné. Deux idées de salé, donc les overnight oats.
Grecs, mais donc pas de question par rapport à au sirop d'agave.
Oui.
Est-ce qu'on peut
alors,
mettre un peu ou pas?
Sirop d'agave, je ne suis pas fan. C'est du fructose, c'est à 90% de fructose, et le fructose c'est le sucre qui se stocke en graisse, et donc en fait c'est le glucose qui nous donne de l'énergie, et le fructose donc on veut l'éviter. Donc le sirop d'agave je préfère pas, mais les bonnes alternatives sont le miel, du bon miel,
le vrai miel quoi.
Voilà, le vrai miel,
on vérifie d'où il vient,
c'est ça. Pas celui qui a été coupé avec un sirop quelconque. Le sirop d'érable.
Sirop d'érable,
ouais. C'est une bonne alternative aussi. Et le sucre de coco.
Oui, le sucre de coco, c'est une bonne alternative, on l'utilise parfois.
Oui.
Ok.
Et c'est le plus écologique d'ailleurs.
D'accord.
Ouais. Okay. Ouais.
C'est bon à savoir. Voilà. Sucre de coco. Oui. Charlotte, on adore. Très bien.
Donc là, c'était deux idées sucrées. Et alors, les œufs, quand on aime le salé le matin, les œufs, ça, c'est excellent. Donc vraiment, les œufs à toutes les sauces. Bonne source de protéines. Donc, excellent pour commencer la journée. Et alors, une recette qui est dans le livre, d'ailleurs, et que je partage beaucoup avec mes mamans, c'est le pain aux noix et aux graines. Je sais pas si tu l'as déjà essayé.
Alors, moi, je l'ai pas encore essayé, je suis honnête. Mais par contre, je sais que j'ai des mamans qui l'ont déjà essayé et qui m'ont fait un très bon retour.
Oui. Et donc, on peut pas vraiment le comparer à un pain. Hein. C'est très différent. C'est sans farine, déjà.
En fait, si, je crois que j'ai déjà fait. Mais il y a...
Si, il me semble qu'on l'a dit. Oui. Et en fait, c'est tout simple. Déjà, il est très facile à faire. Et c'est une bonne source de protéines, de graisses et de fibres. Donc, excellent pour le matin. Je conseille aussi, surtout en postpartum, de le manger le midi, si on n'a pas beaucoup de temps. Donc, à la place d'un morceau de baguette ou d'une tartine ici aux Pays-Bas, c'est un excellent snack aussi.
Ouais.
Donc, et là, c'était tout simple. Donc, c'est vraiment, on mélange des noix et des graines avec des œufs, de l'huile de coco. Et on mélange tout, on met tout dans un moule à cake, on le met au four. Et moi, ce que je fais alors, c'est que je le laisse refroidir, je le tranche, et puis je le mets dans un Ziploc, dans le congélateur.
D'accord.
Et quand je prends une tartine, quand je veux en manger, je sors ça du congélateur, je toast, c'est meilleur toasté. Okay. Et voilà, et donc ça, c'est
donc là, il est page 115 de notre livre, un postpartum en douceur. Ok, génial. Vous retrouvez aussi la recette des boules d'énergie, qui est également un snack qu'on recommande, que recommande en fait tout le monde.
Oui.
Voilà,
excellent snack. Excellent snack en postpartum quand on allait aussi. Donc c'est à base de dattes, de noix et de graines, d'huile de coco et de purée d'amandes aussi. Et là, ce que je recommande, parce que c'est vrai que ça demande un peu plus de travail. Donc faut faire la pâte, après faut faire les boules.
Ouais.
Mais ça c'est un excellent cadeau quand on va rendre visite à une maman. Ouais. C'est j'aurais adoré que quelqu'un m'apporte ça parce qu'on peut les congeler aussi. Donc, on garde ça dans un petit Ziploc aussi, on le garde. Et alors, on le sort et on peut même le manger. Enfin, on le laisse un peu prendre la température ambiante.
Donc, pour les mamans pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent, en fait, être des aides-mamans et accompagner, on peut préparer ça et en apporter. Et alors, justement, quel est le plat qu'on peut apporter à une maman en postpartum? Moi, je parle toujours des lasagnes. Mais bon,
oui.
Là, tu vas me dire, c'est transformé, tout ça.
Ça dépend quelle lasagne, si c'est fait maison et avec amour, c'est tout bon.
Non, mais c'est fait maison,
oui,
bien sûr.
Oui,
enfin, oui.
Oui, c'est ça. Non, c'est très bien, c'est très bien. Donc, les lasagnes, moi, je dirais de tout ce qui est mijoté. C'est ce que je recommande le plus dans ces premières semaines postpartum. Et en général, c'est pour ce genre de plat qu'on n'a pas le temps.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que c'est tellement précieux quand quelqu'un te l'apporte. Mais donc, il y a une recette dans le livre de dalles. Donc, ça, c'est vraiment, c'est mijoté et c'est végétarien.
Le dalle, on va rappeler ce que c'est pour les gens qui connaissent pas. C'est une sorte de curry de lentilles indienne, c'est ça.
C'est ça. Donc lentilles corail. Je crois que la recette de base c'est avec des lentilles corail, mais on peut faire avec d'autres lentilles aussi.
C'est trop bon.
Voilà, il y a plein de légumes. C'est avec du lait de coco et c'est trop bon en effet. Et il y a aussi ce que je recommande d'ajouter à ce genre de plat mijoté, ce sont les bouillons d'os.
D'accord. Donc on peut ajouter des bouillons d'os à ce plat donc de dal.
C'est ça.
Alors, donc, ouais, le dal de lentilles, c'est super bon, mais quand même, Amélie, les lentilles, ça donne des gaz. Les gaz, c'est vrai que l'intestin, tout, l'utérus se rétracte, tout se remet à la place. Et d'ailleurs, les mamans sont souvent un petit peu gênées et peuvent avoir des gaz. Est-ce que c'est pas grave?
Non, c'est pas grave, mais c'est vrai que certaines personnes réagissent plus aux légumineuses, hein, donc beans, enfin les haricots secs et les lentilles. Donc dans ce cas-là, bon, il faut pas en prendre. Ça, je déconseille
au moins.
Ouais. Et ce qu'il y a aussi, c'est quand on fait un changement alimentaire, c'est notamment quand on se dit là maintenant en postpartum, je vais tout d'un coup manger beaucoup de fibres parce que c'est important. Si on l'a pas fait avant, c'est vrai que augmenter rapidement sa consommation de fibres va créer des gaz.
Donc, tu sais, ça me fait penser à quand on part en voyage. En fait, peu importe là où on va, mais on mange différemment.
Oui. Hein,
quand on part en vacances en Grèce ou au Portugal ou en Espagne, on mange différemment et du coup, on peut avoir un petit peu une digestion un petit peu,
ah oui, tout à fait,
un
oui.
petit peu compliquée. Et là, je rappelle tout le temps que quand mes mamans accouchent, je leur dis tout le temps « bienvenue en daronnerie ». Donc voilà, messieurs, dames, les gens, bienvenue en daronnerie.
Oui. Et déjà, voilà, il n'y a pas de gêne, mais c'est juste… pas de gêne vis-à-vis d'autres, mais c'est vrai que c'est gênant d'avoir ces gaz et ça peut aussi s'accompagner de crampes douloureuses.
Ouais. Alors, donc, il y a les gaz, mais alors à l'inverse des gaz, parfois, un sujet tabou, mais ô combien important, il peut y avoir des constipations.
Oui.
Et la première fois qu'on retourne à la selle après un accouchement, c'est un vrai sujet. Les mamans ont peur et je comprends. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe comment s'est passé l'accouchement, il y a toujours une petite angoisse.
Oui, tout à fait.
Donc, petite constipation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on mange? À part boire beaucoup d'eau.
C'est ça, beaucoup d'eau. Ce que je voudrais dire aussi, et ça n'a rien à voir avec l'alimentation, mais c'est quelque chose qui marche très bien, c'est de déjà surélever les pieds quand on va aux toilettes. Donc, ça peut-être que tu le conseilles déjà à tes mamans.
Parce que ça ouvre le sphincter.
C'est
ça. Que donc, quand on sait que en fait les trois quarts, non peut-être pas les trois quarts, mais au moins la moitié de la planète fait caca et pipi assis en position du tailleur.
C'est ça.
Et que pendant très longtemps en France, les toilettes, ce qu'on appelait les toilettes à la turque, étaient en fait.
Ah non, on appelle ça les toilettes à la française. Au bord de l'autoroute, je me rappelle très bien quand j'étais petite. Oh non, des toilettes françaises.
Trop drôle. Mais tu sais que c'est quand même, c'est ce qu'il y a de plus propre.
Oui, tout à fait, oui.
Donc, voilà, enfin bon.
Voilà,
et donc, la position du corps, donc vous avez bien visualisé, vous êtes sur l'autoroute, vous arrêtez, toilettes françaises, blabla. Et là, le sphincter s'ouvre.
C'est ça. Et c'est pas qu'il faut s'accroupir sur sa toilette, mais donc il y a le fait de mettre un petit banc en dessous des... Et ça, je le recommande à tout le monde, en postpartum ou pas. Et ça c'est plus difficile en postpartum parfois quand on doit s'occuper du bébé, c'est d'essayer de pas retenir. Parce que plus longtemps on retient, au plus d'eau en fait est extraite de nos selles. Et donc au plus dur devient...
Ça c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que je dis, une des premières choses que je dis quand j'arrive, c'est si tu as besoin d'aller aux toilettes, tu y vas. Donc, si vous êtes, si vous venez d'avoir un bébé, surtout prévenez bien, en tout cas votre chérie. Et si vous avez besoin d'aller aux toilettes, peu importe qui y a, vous y allez, vous ne faites pas votre bien élevé, ce n'est pas grave. Parce qu'effectivement, ça ira, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide.
Tout à fait.
Ouais.
Et au niveau alimentation, donc tu as déjà dit l'eau, ça c'est très important, manger beaucoup de fibres. De nouveau, donc les fibres, pour rappel, ça se trouve dans les légumes, les fruits, dans les légumineuses, dans l'avoine, dans les céréales complètes, le riz complet, tout ça. Mm-hmm. Sinon, il y a aussi, s'il y a vraiment constipation, moi, ce que je recommande, c'est de prendre du magnésium. D'accord. Ça aide vraiment bien, et notamment le magnésium citrate, parce qu'il y a différentes sortes de magnésium, et le magnésium citrate est le magnésium qui aide justement à mieux faire passer les sels.
Et alors, on trouve ça où, comment?
Alors ça, on trouve facilement en pharmacie, on trouve sur Internet.
Donc on commande du magnésium citrate.
C'est ça.
Et il n'y a pas de contre-indication
Non. Non, il n'y a aucune contre-indication. C'est le magnésium, de toute façon, est un très bon minéral, comment dire, en minéraux.
Ouais.
À prendre pour des femmes en postpartum. En anglais, on l'appelle the relaxer. Donc, ça aide en fait à se détendre un peu. Ça aide à mieux dormir, à dormir plus profondément. Quand on a des angoisses, ça aide aussi un peu.
Et est-ce que c'est une bonne idée, même pour tout le temps, en fait.
C'est ça, même quand on n'est pas constipé. Donc, parce que justement, si on prend du citrate et qu'on a des selles très fluides, ça risque de justement les rendre encore plus liquides. Donc, quand on n'a vraiment aucun souci au niveau de la constipation, je conseille alors de prendre du magnésium bisglycinate. Peut-être que je rentre trop dans le détail. Ouais. Mais voilà, donc ça, c'est pour s'il y a constipation, alors clairement du magnésium citrate et les graines de lin aussi. Et chia aussi. Hein. Donc ça aide aussi bien.
Ok. Bon, ça c'est graines de lin, graines de chia. Donc, boire beaucoup d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut boire? Il y a du thé. Plutôt quel thé?
Ah, alors là, en postpartum, il y a les tisanes de feuilles de framboisier.
D'accord.
Que tu recommandes peut-être aussi?
Pas spécialement.
Oui, mais ça, c'est très bien. Mais déjà, je conseille de prendre ça quand on est enceinte, donc vraiment à la toute fin, à partir de la 36e semaine, plus ou moins. On peut prendre 2-3 tisanes de feuilles de framboisier. Je recommande d'aller prendre bio. Voilà.
Ouais.
Parce que
ça fait quoi?
En fait, ça aide l'utérus à être plus tonique.
Ok.
Donc, ça va dans les deux sens. Donc ça aide pour un accouchement plus efficace, D'accord. donc un travail plus efficace. Et en postpartum, on a les tranchées, mm-hmm. encore plus avec un deuxième et un troisième. Mais donc, c'est l'utérus en fait qui se recontracte.
C'est ça.
Et cette tisane de D'accord. feuilles de framboisier va aider aussi à…
Donc, les tisanes de fleurs de framboisier, c'est donc plutôt
de
bio…
De feuilles.
Ouais. Plutôt bio et plutôt une à deux fois par jour.
Deux fois par jour. On peut en prendre plus, hein. Mais quand on est enceinte, il ne faut pas exagérer non
D'accord.
plus, parce que ça tonifie l'utérus D'accord. et on n'a pas non plus envie que le travail commence trop tôt, mais c'est sans danger. Hein. Donc, quand on prend deux tisanes par jour, c'est sans danger. Et sinon, il y a les tisanes d'ortie.
D'accord.
De feuilles d'ortie qui sont très très bonnes aussi en postpartum, notamment s'il y a des hémorroïdes.
D'accord.
Et c'est donc, c'est très anti-inflammatoire. Il faut savoir aussi qu'un corps qui vient d'accoucher a beaucoup d'inflammation. Donc ça, c'est très bien. Et les feuilles d'ortie contiennent aussi beaucoup de fer. Donc souvent, on en manque aussi après un accouchement. Donc, ce sont les deux tisanes que je recommande de boire en postpartum.
D'accord. Ok, super. Et de l'eau. Et puis, on parle aussi beaucoup des bouillons.
Oui.
Donc, les bouillons, évidemment, on le sait, c'est mieux si on le fait soi-même, mais on n'a pas forcément du temps.
Non.
Donc, il y a maintenant dans les supermarchés et même aux Pays-Bas, il y a la possibilité d'acheter dans des bocaux des bouillons qui sont préparés, donc qui sont en fait concentrés. Et quand on l'achète, on ajoute donc le bocal plus 3 fois le montant du bocal d'eau. Et on peut donc avoir ça. Et tu me disais que ce qui est important, c'est que quand on achète un bouillon qui est préparé à l'avance, il faut que ça se gélifie si on met au réfrigérateur.
C'est ça.
Donc, si vous avez un doute sur le fait que votre bouillon est bien ou pas, ça, c'est une astuce. Vous mettez au réfrigérateur et si ça gélifie, c'est que c'est bien.
Tout à fait. Parce que quand on fait le bouillon soi-même, en fait, c'est ce qui se passe. Ouais. Et donc, un bouillon d'os, c'est fait soit avec la carcasse de poule, soit avec des os vraiment de viande bovine, enfin de bœuf. Ouais. Et donc, il y a toute la gélatine, en fait, qui est extraite des os, et plus aussi des minéraux. Et donc, ça, c'est très, très bon en postpartum, notamment pour la peau. La gélatine, on en a besoin pour l'élasticité de la peau. Donc déjà, rien que pour ça, c'est super bien.
Et donc, soit on peut ajouter des légumes, c'est ce que je fais moi souvent, ce que je prépare, soit on peut le boire comme ça.
C'est ça. Et on peut même, parce que tu disais que tu ajoutes alors de l'eau à ton bouillon, on peut même le boire pur. Donc, moi, les bouillons que moi j'achète, ils sont en portions de 140 ml.
En fait, ça fait comme un peu de confiture.
Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc, moi, je le bois pur.
Comme ça.
Oui. Donc, je le réchauffe, parce que sinon, c'est imbuvable. Ouais. Et donc, je bois ça un peu comme un thé, en fait.
C'est pas trop salé, non ?
Non, ceux que moi, j'achète sont pas trop salés, oui.
Ouais. OK. Et sinon, je sais qu'on peut en commander aussi sur le site de Jolie Mama. Vous avez, elle prépare, elle propose des bouillons, en fait, qui sont déjà... Donc, à commander et à recevoir en ligne. On a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je sais qu'il y a une dernière chose qui est importante, c'est de... Parce qu'on a parlé de se préparer, etc. Et justement, pour se préparer, toi, tu me parles d'un meal plan, ce qui va être, en fait, si on traduit ça en français, ça va être un plan de repas. Donc, peut-être on pourrait... Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais une sorte de menu.
Oui, c'est vrai que j'utilise même avec mes clientes françaises, j'utilise le mot meal plan. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on fait aussi.
Un plan de menu.
C'est un plan de menu. On planifie les menus du postpartum. Idéalement, quand on a un très grand congélateur, on peut même déjà en préparer à l'avance. Et puis c'est le rêve, mais en général... On n'a pas un si grand congélateur. Mais donc, on parle, et c'est quelque chose qu'on prépare dans aussi une des dernières séances avant l'accouchement, quand on a encore un peu la bande passante, et donc, ensemble, mais vous pouvez le faire toute seule aussi, bien sûr, on prépare un planning du mois. D'accord. Donc, on regarde vraiment tout le mois. S'il y a des visites, on sait par exemple que les parents seront là, tout ça, on met dans le planning, parce que peut-être que du coup, on peut demander à maman, on sait que si notre maman, surtout pour des expats, alors on a la visite de la maman souvent qui vient, qui reste pendant 4-5 jours. Déjà là, déléguer les repas, ça c'est déjà la première chose, mais tout ça on peut mettre dans le planning. Et puis après, les autres soirs, je recommande de le faire avec son partenaire.
Bien sûr.
Et de lui demander aussi, en fonction de son travail, peut-être qu'il doit se déplacer, peut-être qu'il a, en fonction de son agenda, quels sont les soirs où tu peux faire quoi, où tu peux préparer le repas et qu'est-ce que tu veux préparer. Et du coup, de déjà faire les listes de courses.
Ouais, parce que l'idée, là encore, c'est ce que je dis souvent, c'est de dire, en fait, la presse prépare avant. Parce qu'avant, on a le temps, avant, on est alerte. Donc, on peut anticiper tout ça. Donc, toi, tu parles de faire, donc, de préparer, d'anticiper des idées de plats, donc aussi des idées de courses, des listes de courses, parce qu'effectivement, c'est pareil, la phrase « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Mais j'en sais rien, de quoi tu as envie ? C'est insupportable.
Et dangereux, parce que du coup, on n'a pas envie, et du coup, on se dit pizza, quoi.
Voilà, c'est ça.
Mais ça aussi, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on regarde quelles sont les bonnes options, les meilleures options de takeaway ou de...
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Ce que je voulais te demander. Donc, comment est-ce que s'il y a effectivement, il y a forcément des soirs qu'on n'a pas envie, quand on se dit, on va commander, est-ce que c'est... c'est possible, évidemment. Et est-ce que c'est intelligent de se renseigner avant? Quelles sont autour de soi ou chez soi les entreprises qui vont pouvoir proposer et chez qui on va pouvoir commander?
Oui, tout à fait. Et de même les tester, en fait. Ouais. Donc, je recommande. Déjà, dans le dernier mois, on a aussi un peu la flemme. On a aussi déjà un peu moins envie de cuisiner. Mais donc, c'est là qu'on regarde ensemble quelles sont les bonnes options. Ici, à Amsterdam, je sais que il y a vraiment moyen de trouver des très, très bonnes options pour celles qui vivent ici, il y a Oliver Green, par exemple, qui fait des Super Bowls, qui sont hyper nutritifs. Il y a, comment ça s'appelle, Poke Perfect, qui fait des Poke Bowls aussi, avec une base quinoa, on peut choisir pour éviter le
rayon. Moi, j'aime bien les ramen.
Les ramen, oui, excellent aussi. Et donc voilà, déjà un peu faire, voilà, tester quelque chose. Et on n'a pas besoin des 10 000 options. Hein. S'il y en a 3 ou 4, voilà, on les note. Et comme ça, on ne doit même pas se casser la tête ou se poser la question une fois en passant.
Bon, et puis moi, je recommande aussi parfois, tu le sais, hein, quand on n'a pas le temps, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie, c'est, je dis souvent que Picard est le meilleur ami de la mère de famille. Enfin, en tout cas, il a été mon meilleur ami pendant longtemps.
Oui.
Je sais que tu nous as dit d'utiliser des matières pas transformées, de préférence en termes, etc. Donc là, clairement, Picard... Alors, il y a des produits qui sont pas transformés, mais il faut les cuisiner. Donc, on peut utiliser ça si on veut comme première matière première. Mais si on veut, par exemple, des plats postpartum, on choisit quoi? Et on regarde quoi?
Oui, alors là, je recommande de regarder la liste des ingrédients.
Ok.
Déjà, si on reconnaît tout, c'est déjà bon signe.
D'accord.
S'il n'est pas trop long non plus, bah, c'est bon signe. On veut éviter quand même qu'il y ait genre 7 e-numbers, 212 et tout ça.
D'accord.
Donc voilà, là, il n'y a aucun souci. Parce qu'en effet, la facilité est super importante aussi. Je sais aussi que chez Picard, ils vendent des sachets déjà de mélange de légumes qui sont déjà pré-coupés. Et ça, aux Pays-Bas, on les trouve beaucoup aussi. Hein,
qu'on peut après faire réchauffer à la poêle.
Oui, ou qu'on met au four. Ça, c'est quelque chose que je recommande beaucoup aussi, c'est de cuire ces légumes au four. Et bon, là, moi, je suis très dans le batch cooking.
Ouais.
Et c'est donc l'idée.
Le batch cooking, c'est de préparer à l'avance des plats.
Tout à fait. La semaine. C'est ça. Et donc, idéalement, on le demande à son partenaire, encore mieux, ou à sa maman quand elle est en visite. C'est de déjà, soit donc utiliser ces sachets de légumes qui sont déjà pré-coupés, soit voilà, on les coupe. On mélange les légumes avec de l'huile d'olive et un peu de sel et poivre. Et on peut mettre les épices qu'on veut, du cumin, du curry. Et on met ça au four, et comme ça on peut vraiment mettre deux tacs remplis de légumes au four, et après on les met dans des Tupperware et on garde ça au frigo.
Ça perd pas ses nutrients?
Oui, peut-être un peu. Clairement, mais les bénéfices sont tellement voilà. Et sinon, si on n'a pas ça, ben peut-être que du coup, ben, à midi, voilà, entre deux tétés, on va plutôt se manger un bout de baguette avec un peu de confiture. Donc l'alternative,
Et donc, combien de temps, c'est intéressant d'avoir la recette complète, combien de temps au four tu mets ça?
Oui, ça dépend des légumes. Hein. Donc, tout ce qui vient de la terre, enfin, en dessous de la terre, donc les carottes, betteraves, panais, ce genre de choses-là,
c'est plus long. D'accord.
C'est ça. Donc, c'est bien de grouper ceux-là avec les pommes de terre, les patates douces et alors tous les légumes qui poussent au-dessus de la terre.
D'accord, courgettes, aubergines, tomates.
Voilà, tout ça. Et c'est un peu selon la saison. Ça aussi, ça prend un peu moins de temps.
D'accord.
Donc, mais en général, je dirais c'est entre 20 et 40 minutes.
D'accord. Ok. Super. Donc, Picard, ou on est d'accord, Grand Frais, ou ce que vous avez, je n'ai pas d'affiliation directement avec Picard, même si j'aimerais bien. On a parlé de beaucoup de choses déjà. Je crois que tu voulais aussi nous reparler des probiotiques.
Oui.
Dis-moi.
Oui, donc les probiotiques, en fait, ce qu'il faut savoir, que c'est... Donc les probiotiques, pour celles qui ne savent pas, donc ce sont des bactéries qu'on peut prendre en gélules et qui vont repeupler notre flore intestinale ou la rendre plus saine. Ce qu'il faut savoir, et donc il y a pas mal d'études sur les dernières années qui ont prouvé que le microbiote, donc la flore intestinale d'une femme qui vient d'accoucher, est vraiment affaibli. Et dans ce sens même, qu'ils ont fait des tests et ils ont extrait un peu de flore intestinale de femmes donc qui venaient d'accoucher. Ils ont mis ça dans des rats de laboratoire et ces rats sont devenus obèses. Donc voilà. Donc il faut savoir que la flore intestinale ressemble plus à une personne qui est pré-diabétique. Pour ça aussi, qu'un de mes conseils, c'était d'essayer de garder sa glycémie stable,
de
ne pas manger trop de sucre dans cette période-là, parce que cette glycémie est déjà très élevée par défaut. Et donc, c'est pour ça que je recommande de toute façon de faire une cure de probiotiques aussi après l'accouchement.
Donc ça, c'est en gélule, on trouve partout,
c'est ça.
Probiotiques. Voilà. Et si on veut, qu'est-ce qu'on peut prendre pour notre flore intestinale? Moi, je sais que Mon beau-fils est très branché nutrition et c'est lui qui m'a fait découvrir le kombucha.
Oui.
Alors, le kombucha, c'est une boisson fermentée. Hein, c'est ça.
Oui, c'est ça. Excellente alternative aussi quand on est enceinte et qu'on a envie d'un petit apéro, ouais. Ben on se fait un petit kombucha.
Ouais, on peut aussi en acheter dans le commerce.
Oui, oui, on le fait. Je ne prépare pas non plus. On l'achète, tout ouais, à fait d'accord. D'accord. Mais on peut le mettre, voilà, ouais. La vie, le mettre dans un beau verre avec une petite rondelle de citron et tout ça. Ouais. C'est ça que. Mais donc en effet, c'est une boisson fermentée qui contient beaucoup de probiotiques.
Et le séphir, ça te parle.
Kéfir, oui. Kéfir. Oui, c'est ça. Enfin, peut-être qu'en kéfir. Français, c'est séphir, je ne sais
c'est
pas.
Moi qui suis...
voilà, oui, des kéfirs aussi, c'est une boisson, ça ressemble un peu au yaourt, mais un yaourt qui est un peu plus aigre, plus acide, et qui contient plus de bonnes bactéries.
D'accord.
Donc ça, de toute façon, donc, il y a des probiotiques à prendre, mais il y a aussi des choses comme le kéfir, le yaourt, le kombucha,
ouais.
La choucroute.
Ok.
Ah oui, excellent. Donc la choucroute.
La choucroute avec les saucisses.
Si on aime, oui.
Tout ça.
Oui,
ouais,
tout à fait. Ça apportera les protéines.
Voilà. Et les pommes de terre qui font
tout à fait,
les glucides.
Oui.
C'est ça?
Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Très bien.
Donc en fait, choucroute, un plat passe-partout.
Tout à fait.
Mais par contre, la digestion.
Ah, il faut voir si on...
Au niveau des gaz,
oui,
on fait attention.
Certaines personnes, de nouveau, ont un d'accord. peu plus de mal avec ça.
Ouais.
Donc ça, il faut toujours essayer
peu.
De... Oui,
ouais.
Voilà.
Okay. Bon, donc ça, c'est très important, ouais, les probiotiques. Il y a d'autres aliments qu'on peut prendre dans lesquels il y en a ou...
Alors, au niveau des probiotiques, je crois que... Oui, il y a aussi le... Oh, le nom m'échappe maintenant. Kimchi. Donc, ça sont des légumes japonais, en fait,
ah oui,
qui sont aussi fermentés.
D'accord.
Donc, c'est un peu dans la
comme
même
un
idée
chou,
que,
non un peu c'est
choux.
Pas un peu comme un chou
oui, ce sont oui, il y a pas mal oui. de choux dedans.
D'accord.
Mais on peut trouver dans les magasins bio des carottes fermentées, des betteraves fermentées, tout ça.
Donc, en fait, ce qui est fermenté, c'est ça
c'est
qui
ça.
Est...
Okay. C'est ça. Et peut-être... D'accord. Là, tu posais une question, s'il y a encore un aliment star postpartum, et ça, je crois que c'est quand même aussi important d'en parler, ce sont les oméga-3.
Oui.
Anti-inflammatoires, donc ça, c'est excellent. Et quand on allait, c'est excellent aussi pour le développement du cerveau du bébé.
D'accord.
Et ça, on trouve dans les poissons gras, surtout.
Ouais. Donc, saumon, thon.
Voilà. Macro, en fait.
Sardine,
hareng.
En boîte aussi, ouais, hareng.
Oui, ouais. En boîte aussi, donc
ouais,
en
parce
boîte.
Que je vous raconte, en fait, aux Pays-Bas, ils sont champions du monde du hareng cru. Donc, vous imaginez un hareng cru qui est posé dans une petite barquette sur lequel ils déposent délicatement des centaines de milliards de petits oignons crus avec un espèce de gros cornichon fermenté,
donc c'est excellent.
Et en fait, ils soulèvent le hareng par la queue et ils s'engloutissent ça. Il faut imaginer qu'ils le glissent ensuite comme ça dans leur bouche, quoi.
Enfin, ouais.
Et c'est comme ça qu'on mange ici le hareng. Bon, c'est un concept.
C'est un concept. Moi, je mange très souvent des harengs, mais je peux te dire que je ne le glisse pas comme un phoque
oui.
dans ma bouche.
C'est ça. Moi, j'ai du mal avec les oignons crus quand même. Mais
oui,
bon,
oui,
c'est
moi, je demande sans
personnel.
Oignons. C'est vrai, oui, oui.
Enfin,
mais,
voilà. Donc,
excellent.
Le hareng, d'accord.
Oui, c'est un excellent snack. Et c'est pour ça aussi, donc, quand vous préparez votre postpartum, c'est bien d'avoir aussi quelques aliments déjà dans ces placards.
Oui.
Et donc là, je conseille les conserves de poisson.
D'accord.
Donc, sardines.
Moi, il y a un truc que j'adore qui est complètement sous-côté, c'est le foie de morue.
Ah oui, mais c'est excellent.
Ah ouais, c'est trop
excellent.
Bon. Sur une tartine grillée.
Oui.
Miam.
Ah oui, oui, non,
ouais.
Mais ça, tu peux en prendre toutes les
d'accord.
semaines.
Ouais, okay.
Oui, oui.
Bon, alors voilà. Donc, oméga 3, il y en a dans d'autres trucs ou les noix, non?
Oui, mais ça, c'est une autre forme.
D'accord.
C'est la forme ALA qui doit encore être
bon,
transformée.
On reste
en fait.
Sur
voilà.
les poissons.
Donc, il y en a, mais c'est clair que les poissons sont vraiment les aliments stars.
Alors, en fait, je crois qu'on a vraiment bien balayé tout ce qu'on voulait se dire. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur si on veut récupérer sa ligne, enfin sa ligne, si on veut perdre un peu de poids après, après le postpartum, sachant que c'est absolument pas une obligation ni...
Non, tout à fait, tout à fait. Et voilà, je vais pas trop m'étaler là-dessus non plus. Je travaille beaucoup avec des femmes qui, justement, après un an, deux ans, se disent bah, « maintenant, j'ai envie de les reperdre ». Et il y en a aussi qui viennent me voir plus tôt, mais alors je les renvoie.
Ouais.
Enfin, non, je les aide, bien sûr, à équilibrer leur alimentation, mais la perte de poids ne doit vraiment pas être une priorité.
D'accord.
Je dis même dans la première année, enfin, on a fait un truc de dingue avec notre corps.
Donc, la première année, on est cool.
On est cool, tout D'accord. à fait, tout ouais. à fait. Et certaines femmes perdent facilement, d'autres un peu moins facilement. Tout dépend un peu de l'équilibre hormonal aussi. Ouais. Tout dépend de l'alimentation pendant la grossesse. Mais surtout, il ne faut pas que ce soit un focus sur la santé. Okay. Et donc, vraiment de manger des choses nutritives plutôt que des choses pour faire régime et pour perdre
D'accord,
du poids.
Ouais.
Surtout, éviter de manger moins et de faire régime.
D'accord, peut-être de reprendre un peu de sport, de bouger, mais
oui,
ça c'est évident,
oui,
hein,
oui.
On le dit suffisamment. Donc en fait, ton astuce c'est surtout d'être cool dans un premier temps.
C'est ça, et de manger bien et sûr
manger
équilibré quoi,
ouais.
Et de vraiment se D'accord. dire bah, tout ce que je mets dans ma bouche, tout, on doit pas être parfaite non plus, hein, mais de vraiment de se poser la question, est-ce que ce que je mets dans ma bouche est bon pour mon corps et éventuellement pour mon bébé si je l'allaite.
D'accord. Ouais. Bon, bah écoute Amélie, on est arrivé au bout, on s'est dit beaucoup de choses. Moi j'ai une dernière question pour nous rassurer toutes. Dis-moi, c'est quoi la meilleure pizza quand même? Si on doit se commander une pizza sans culpabiliser, on met quoi dessus?
Alors la meilleure pizza, c'est celle qu'on préfère.
Mais celle qu'on préfère, c'est celle aux quatre fromages.
Ah oui, non, mais alors c'est celle-là.
C'est
celle-là. Ah, non, il faut si une bonne pizza.
Ouais.
Surtout, c'est une période tellement compliquée. Alors,
ouais.
S'il vous plaît, faites-vous plaisir avec votre pizza préférée, même si c'est pas la meilleure, même si c'est bourré de salami industriel. Vous mangez, vous faites plaisir avec la pizza qui vous fait plaisir.
Bon, ça va, je trouve que c'est une très bonne réponse.
Okay.
Bon, merci beaucoup. Est-ce que toi, tu veux ajouter encore une dernière chose?
Alors, en fait, oui, je voulais proposer quelque chose à tes auditrices,
ouais.
Si tu es d'accord. C'est que je crois que Delphine va mettre l'URL alors dans les notes.
Ouais.
Mais sur mon site, donc goodness.com/maman, donc là, j'ai fait un petit espace dont Delphine parlait là tout à l'heure pour les femmes françaises ou francophones. Et là, vous verrez une petite vidéo et dans laquelle je propose une mini consultation gratuite de 30 minutes.
D'accord.
Donc, vous pouvez m'expliquer votre situation. Comme ça, on fait le bilan ensemble et je donne mes premiers conseils.
D'accord.
Voilà.
Bah, c'est super. Donc, il y a l'e-book, il y a éventuellement de la consultation. Il y a ton Instagram qui est aussi MyGoodness que je partage régulièrement. Il y a tes recettes dans le livre. Et puis, toutes celles qui sont à Amsterdam, si vous avez envie de venir faire un dîner avec Amélie, c'est trop chouette.
Avec
grand
plaisir.
Et avec les autres copines du groupe, parce qu'on est un joli groupe. D'ailleurs, on les embrasse parce qu'on espère qu'elles vont écouter l'épisode.
Oui, on va en parler en tout cas dans le groupe.
On va en parler dans le groupe. Merci beaucoup pour tout ça. Si les gens ont d'autres questions, ils peuvent évidemment me contacter.
Avec grand plaisir.
Ouais, super. Bon, écoute, merci pour tout.
Merci à toi.
Et puis, à bientôt pour plein d'autres projets
ensemble. Oui, d'office.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente fin de ce que vous êtes en train de faire. À très bientôt pour un épisode au cœur de la famille.
Je vous remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Pour le faire connaître, je vous invite à le partager autour de vous et à en parler. Vous pouvez suivre les aventures de Delphine sur Instagram sous le nom de ama_kramser_française. Le lien sera dans la description. Je tiens à remercier Martine pour l'audio, Clément pour la musique, Émilie pour le mixage, et vous avez également entendu les voix de Audric et de Thaïs. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, et à bientôt.